La délinquance juvénile représente par définition une conduite indisciplinée. D'autre part, il ne fait aucun doute qu'en général, les délinquants sont des jeunes ayant souffert d'un part de leurs parents d'un manque flagrant de discipline qui, tout en étant ferme, sans toute être brutal, aurait dû relever d'un amour clairvoyant. Ils n'ont hélas pas reçu le genre de discipline qui, sous son aspect positif et pratique, leur aurait permis d'assumer des responsabilités allant toujours de pair avec leur développement mental et émotionnel. Cette même discipline bien comprise aurait également, de par la nature négative de la punition encourue, permis de leur montrer et même de leur inculquer ce que doit représenter le respect de l'autorité paternelle ou maternelle. Une telle instruction exclut bien entendu d'office les extrêmes d'un amour faible qu'on voit hélas souvent. Le coup de la cuillère qu'on mange pour papa, pour maman ou pour grand-père relève précisément d'une faiblesse coupable qui va aller en s'amplifiant pour conduire très vite vers un traitement bétifiant de l'enfant exercé dans le but de le conserver même grand sur sa complète dépendance. Il ne pourra pas grandir normalement et plus tard n'aura pas la maturité suffisante pour faire face aux réalités parfois épuisantes de la vie. Il pourrait alors se rebeller et son esprit se fausser sous la tension imposée par des circonstances qui, pour tout autre, seraient normales. Cette discipline trop lâche, trop peu adaptée, n'accordera pas non plus une liberté de choix à l'enfant qui n'aura pas acquis la maturité suffisante pour l'assumer. Il est par contre vrai qu'un juste milieu entre l'indépendance et la dépendance, entre la permissivité et l'interdiction, à enseigner et à donner aux enfants, n'est parfois pas facile à atteindre. Mais tout cela fait partie du rude devoir des parents, ainsi que des responsabilités leur incombant dès qu'ils mettent un enfant au monde. Le docteur Gesell, directeur d'un institut psychiatrique pour enfants, en résumant ses vues sur les besoins psychologiques des enfants en ce qui concerne la discipline et les dégâts psychiques causés par une atmosphère de licence, dit ceci. Au fond de son être, l'enfant éprouve le besoin de vivre selon un certain modèle, de vivre une existence bien disciplinée, et cela pour plusieurs raisons. La première, il éprouve une impression de sécurité lorsqu'il sait jusqu'où où il peut ou ne peut pas aller, et qu'il vit selon ses limites bien précises. Deuxièmement, lorsque son existence s'accorde avec ses points bien déterminés, et la liberté qui en découle naturellement, il a bien moins de raisons de se sentir coupable pour les avoir violés ou pour s'être trompé à leur sujet. Troisièmement, vivre d'après les ordres ou les règlements signifie pour lui autant d'occasions de louange, de félicitations de la part de ses parents. Cela stimule en lui le désir de continuer dans cette voie. Quatrièmement, un fait est certain, c'est qu'un enfant trouve un soutien moral, personnel énorme, et la plupart du temps inconscient, à accomplir ce qu'on lui demande. Les enfants ayant reçu de leurs parents un enseignement directif et correctif, possédant les caractéristiques suivantes, ne s'engagent que très rarement, voire jamais, sur le chemin de la délinquance. Bien que d'autres choses lui soient égales en efficacité, la discipline la plus effective est celle qui présente le plus de constance. L'enfant a besoin de savoir sur quoi compter, à quoi s'attendre. Lorsqu'une discipline est inconstante, c'est-à-dire variable dans ses énoncés, dans ses effets, l'enfant devient lui-même versatile. Ensuite apparaît un sentiment de frustration qui conduit tout droit à la rébellion. Rien ne rend un enfant plus indécis, plus imprévisible dans ses réactions que de le garder sans cesse dans l'expectative. Au moins trois règles de conduite en matière de discipline régulière sont à adopter pour aider l'enfant à se développer d'une manière saine. Premièrement, il faut qu'il y ait toujours une similitude entre une occasion et la suivante. Les pères et les mères qui punissent une fois leur enfant pour un acte de désobéissance particulier, puis à la prochaine incartade ne le font pas, encouragent l'enfant à jouer sa chance quant à la violation d'un ordre. Deuxièmement, les parents doivent agir en parfaite harmonie. Si le père et la mère n'arrivent pas à se mettre d'accord en matière de discipline, leur enfant apprendront très vite à se servir de cette indécision et à dresser les parents l'un contre l'autre. Ce qui constitue déjà en fait une attitude foncièrement anormale, de froid calcul, qui plus tard ira en s'amplifiant, mais cette fois dans la société. Troisièmement, les mots des parents doivent constamment aller de pair avec action. Les enfants doivent absolument savoir que leurs parents pensent ce qu'ils disent. Dans le cas contraire, il y aura automatiquement tentation à désobéir et les enfants courront le risque des conséquences possibles. Il paraît normal aux enfants d'aller aussi loin que possible, mettant ainsi leurs parents au défi d'appliquer une punition. Lorsque les parents ne font pas suivre leurs paroles d'actes concrets, les enfants ont conclu tout naturellement que les menaces de sanctions ne sont que des paroles vaines. L'enfant qui s'entend dire sans cesse « Attention à la fessée !» ou encore « Je vais le dire à papa lorsqu'il rentrera !» est pratiquement assuré de son impunité, car il sait que toutes ces menaces ne sont que du vent. Plus tard, il faut s'en rendre compte. Il fera peut-être la même chose envers la loi, en essayant de voir jusqu'où il peut aller sans qu'elle ne se retourne contre lui. L'obéissance naît du respect. Les enfants qui ont été élevés au milieu de menaces qui ne se sont que très rarement ou même jamais concrétisées peuvent difficilement respecter leurs parents. Plus tard, cela peut conduire ou se traduire par le rejet de toutes les lois établies par la société et un mépris pour ceux qui sont chargés de les faire respecter. La discipline manque très rarement son but à cause d'une mauvaise compréhension entre parents et enfants. Les règles de conduite des adultes, lorsqu'elles sont arbitrairement appliquées aux enfants, ne répondent nullement à leurs besoins et les conduisent tout droit vers un sentiment de frustration qui se traduira tôt ou tard par une rébellion ouverte ou non. Ne demandons pas aux enfants de se conduire comme des adultes. Ce serait un non-sens. Nous devons savoir également que le besoin de discipline chez les enfants peut varier selon les individus d'un même âge. Il n'est pas donné à tout le monde de connaître avec exactitude la dose de discipline à appliquer à un enfant particulier, car on peut très aisément soit la dépasser, soit rester au-delà de ses besoins réels. Mais certains parents très sages évitent avec soin la surprotection ou la sous-protection de leurs enfants, car ils réalisent que de ces deux extrêmes va résulter une insécurité certaine. Dans le foyer idéal, le but de la discipline est sans cesse de diriger vers le contrôle de soi. À cause de son manque de maturité, l'enfant a très tôt besoin qu'on lui impose certaines contraintes. Mais à fur et à mesure qu'il grandit, son jugement et ses capacités d'assumer ses propres responsabilités se développent. C'est pourquoi il faut très graduellement lever certains tabous afin de l'aider à acquérir et à renforcer le contrôle qu'il va exercer lui-même sur ses propres actes, sur ses pensées. Tout ceci nécessite un savant dosage de liberté à lui laisser, ainsi d'ailleurs que la possibilité de pouvoir s'exprimer. L'obéissance n'est pas une fin en soi. Et appliquer ce principe équivaut trop souvent à l'écrasement de toute initiative chez l'enfant, le rendant ainsi par trop émotif et faible, ce qui, une fois de plus, pourrait devenir un terrain fertile dans lequel une conduite désordonnée et débridée ne demanderait qu'à pousser. Par contre, on est bien forcé de constater que la docilité ne prouve nullement que la discipline appliquée a porté ses fruits. Les jeunes délinquants sont toujours incapables de se contrôler dans des circonstances diverses, et cela démontre combien peu leurs parents les ont aidés à développer en eux les forces morales, spirituelles, émotionnelles même, qui leur aurait permis de faire front aux épreuves ou à l'adversité. Il va de soi qu'il existe en dehors du foyer paternel tout un environnement dans lequel gravite l'enfant et qui échappe dans une certaine mesure à la responsabilité des parents. Cependant, ils n'en sont pas moins comptables du fait qu'ils doivent développer chez leur enfant ce sens des responsabilités et du contrôle de soi qui doit lui permettre, en dehors de la maison, de devenir le maître de son environnement et non son esclave. Les délinquants juvéniles sont avant tout des êtres incapables de tenir tête aux influences néfastes qui n'ont prise sur eux qu'en vertu du fait que l'habitude de dominer leurs instincts, leurs tendances, n'a jamais pu se développer en eux. Le self-control leur est pratiquement inconnu. Peut-être est-il un tant soit peu arbitraire que de séparer la direction des parents de la discipline, car dans le vrai sens des termes, il s'agit pratiquement de la même chose. Cependant, puisqu'on donne au mot « direction » un sens plus exclusif au terme discipline, cette nouvelle phase de notre entretien va en tenir compte en leur attribuant une signification propre. Il est indiscutable que dans pratiquement chaque cas de délinquance juvénile, le cadre familial n'a pas joué son vrai rôle qui est de diriger avec sagesse le jeune qui vit en son sein. En parlant de la direction que les parents doivent faire prendre à leurs enfants, nous envisageons le point de vue spirituel, religieux, et en particulier la religion du Christ. Nous ne croyons pas qu'à l'heure actuelle, beaucoup de parents, hélas, dirigent leurs enfants dans le vrai sens du terme, de manière à donner à leur existence une raison profondément morale, seule mesure préventive à une délinquance future. Monsieur Edgar Hoover, dont nous avons déjà parlé, toujours dans la même étude, affirme que, depuis plusieurs décennies, la tendance est de s'éloigner de l'antique croyance qui veut que l'homme soit centré sur Dieu et est pleinement responsable de ses pensées et de ses actes, tant vis-à-vis d'une puissance suprême qu'envers ses concitoyens. Le matérialisme qui en résulte met plutôt l'accent sur la valeur des expédients, des échappatoires en matière de responsabilité et de l'égoïsme. Et il continue, mais en ce moment, je suis heureux de constater qu'il existe de nombreux signes de réveil spirituel, ce qui inclut une augmentation de la fréquentation des églises. Si tout le monde voulait se joindre à ce mouvement de retour vers Dieu, nous aurions vite fait de contrôler et de réduire la délinquance. Le juge d'un tribunal pour mineurs, ayant vu défiler plusieurs milliers de jeunes délinquants dans le prétoire, rend le verdict suivant. Le manque de religion est de toute évidence le facteur le plus déterminant de cette crise nationale. Il est incontestablement vrai que les parents portent la principale responsabilité quant à l'enseignement religieux de leurs enfants. Car les parents qui s'intéressent à bien diriger spirituellement leurs enfants leur enseigneront tout d'abord à la maison pour les emmener ensuite régulièrement à l'église. Là, ils recevront une instruction religieuse encore plus poussée. Et leur vie spirituelle et morale sera leur meilleur guide sur les sentiers de la vie.